Jean-Michel Arnaud.
Mise en page. Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mise en page. Mise en page que vous écoutez sur vos radios préférées, évidemment Radio Vassivière, RTF Limoges, Radio Margerie et puis sur Internet depuis maintenant 18 ans. Et oui, ça en fait du temps. Alors, nous avons appris une nouvelle triste, puis c'est le départ de Christian Bobin. Christian Bobin qui était né le 24 avril 1951, qui nous a quittés le 23 novembre dernier. Alors, je pense que tout le monde a un livre de Christian Bobin dans sa bibliothèque. Tout le monde un jour a vu passer, je pense, des livres comme La petite robe de fête, Le trébat, La plus que vive, pourquoi pas Les ruines du ciel, Pierre, on en parlera de ces livres-là. Des livres courts, souvent, chez Christian Bobin, qui avaient comme point commun d'être à la lisière entre la poésie, la méditation, la philosophie, le romanesque aussi. Alors, c'était un immense écrivain, Christian Bobin. J'aurais beaucoup aimé le rencontrer pour Mise en page, mais c'est ainsi, le destin n'a pas laissé le temps à cette rencontre. Alors, nous écouterons la voix de Christian Bobin dans cette émission, à travers des fragments d'émissions que j'ai empruntés à Keren El-Kaïm, qui anime une émission à la Maison de la Poésie, et Bobin avait fait une émission en 2019 avec elle. Il y aura quelques fragments, merci pour cet emprunt à Keren El-Kaïm. Pour commencer, un petit fragment d'un des romans qui a fait connaître Christian Bobin. Il s'agit du Trébat. Le Trébat paraît en 1994 et Bobin est croyant chrétien, même s'il ne fréquente que peu les églises, il a un rapport à la méditation tout à fait important. Ce roman-là, Le Trébat, évoque le personnage de Saint François d'Assise, la vie de Saint François d'Assise. Voici un petit extrait. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Il ne suffit pas d'une chair pour naître. Il y faut aussi cette parole. Elle vient de loin. Elle vient du bleu lointain des cieux. Elle s'enfonce dans le vivant. Elle ruisselle sous les chairs du vivant comme une eau souterraine d'amour pur. Ce n'est pas nécessaire de connaître la Bible pour l'entendre. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être vivifié par son souffle. Cette parole imprègne chaque page de la Bible, mais elle imprègne aussi bien les feuilles des arbres, le poil des animaux et chaque grain de poussière volant dans l'air, le fin fond de la matière, son dernier noyau, sa pointe ultime. Ce n'est pas la matière, mais cette parole. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel, éternellement tourné vers toi. Poussière, bête, homme. Avant de planer sur les berceaux, avant de danser aux lèvres des mers, cette parole se ferait un chemin au travers des voix qui sont une époque, qui en donnent le ton et la couleur. Parole de guerre et de commerce, parole de gloire et de désastre, parole de sourd, et par le travers, et par en dessous, et par en dessus, l'esprit du vent, la folle rumeur, le bourdonnement dans le sang rouge. Je t'aime. Bien avant que tu sois né, bien avant la fin des temps. Je t'aime dans toute éternité. Il vient de là, François d'Assise. Il vient de là. Et il y retourne, comme on revient au lit profond entre les bras d'une belle.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets.
Mise en page, aujourd'hui hommage à Christian Bobin qui vient de nous quitter et qui nous laisse une œuvre tout à fait conséquente avec une soixantaine d'écrits. Le tout premier, celui qu'il a fait connaître au grand public, c'était une petite robe de fête. Cette petite robe de fête, elle a beaucoup circulé, on l'a beaucoup offert, on l'a beaucoup acheté, cette petite robe de fête. Elle est marquante, elle évoque déjà une part philosophique, elle évoque la poésie. Et puis... on s'y retrouvait comme dans un voyage intérieur. Voici un extrait de cette petite robe de fête de Christian Bobin, le passage de Terre promise. Vous qui voyagez peu, vous qui ne voyagez jamais, il vous arrive quand même, un jour, de prendre un train. Dans la gare, beaucoup d'hommes d'affaires. Vous les reconnaissez de loin, à leur visage qui manque. Le même homme a une dizaine d'exemplaires. Le même homme, jeune, vieilli dans sa parole, embaumé dans son avenir. Vous les regardez avec un peu de crainte, comme dans l'enfance on considère de vieilles gens, sèches, à la voix sombre. Le train arrive, c'est un de ces trains rapides, inventés par les hommes d'affaires, avec leurs convenances personnelles. Une ligne droite de train clair, une main de vent froid qui égalise les champs et les vides de leurs rides, de leurs accents, de leurs nerfs, des champs désertés par le regard, par les hommes et les bêtes, des bas morceaux de terre jetés aux chiens de la vitesse. Le paysage n'est plus rien, ce qui fait qu'on le traverse vite. Devant ce rien du paysage, vous prenez connaissance de l'homme fabriqué en série, de l'homme absent. Il va de Paris à Tokyo, de Tokyo à New York. Il va partout sur la terre électrique, comme un cadavre répandu dans sa mort. Il prend des trains qui vont d'un point à un autre, de rien à rien. Dans sa précipitation, il amène le vide. Si souvent qu'il parle, il n'entend que lui-même. Si loin qu'il aille, il ne trouve que lui-même. Il tache de gris tout ce qu'il traverse. Il dort dans ce qu'il voit. Vous vous dites, ces gens qui voyagent tant, ils ne font plus un seul pas. Ils n'avancent pas. Jamais. Pour bien voir une chose, il vous faut toucher à son contraire. Vous n'avez jamais su voir autrement. Par l'ombre, vous allez à la lumière. Par l'indifférence, vous atteignez à l'amour. De même, ces hommes, des trains de luxe, des vols de nuit, de même ces hommes anéantis dans l'équivalence financière qu'ils amènent, en les voyant vous découvrez un type d'homme qu'ils ne savent réduire, qui va beaucoup plus loin que jusqu'au bout du monde. En les voyant vous découvrez l'homme déplacé, l'homme mélangé, l'homme inconsolé de trop d'enfance. Christian Bobin.
Quand on est plongé dans la baignoire et qu'on ressort, on est trempé. Et on est trempé, je crois, pour toute la vie du lieu, du pays, du paysage et des atmosphères. Il y a des termes apparemment vagues, mais qui sont très précieux pour la compréhension de la vie incompréhensible. Par exemple, le mot « atmosphère », par exemple, le mot « présence », un peu le mot « solitude » aussi, mais il a déjà trop de noblesse avec lui, ce mot. La présence, c'est quelque chose de passionnant à penser. C'est quelque chose d'inépuisable. Et c'est quelque chose que je souhaite susciter en écrivant. Et c'est quelque chose que, quand je la rencontre dans une vie, la présence, une présence humaine, ou animale, ou minérale, ou végétale, c'est quelque chose qui me dicte d'écrire, qui me fait écrire. Les atmosphères, c'est quelque chose d'encore plus... C'est quelque chose encore plus... Comment dire... Comment je pourrais décrire ça? On a tous vu des images des chambres de Pharaon quand on les dégage de l'oubli des millénaires et quand on aperçoit, notamment pour les tombes qui sont les quelques-unes qui ont été inviolées, on découvre un fatras de choses, de chars, de poupées majestueuses, d'armes, d'épées. Eh bien, la ville où je suis né est une chambre de Pharaon. Tout est en vrac et tout est dur. Tout y est dur. Les pierres sont particulièrement pierres, le fer est particulièrement fer, et les nuages qui passent au-dessus des toits d'usine se blessent aux angles. Tout est dur. Et cette dureté, Emily Dickinson dit que c'est la soif qui apprend l'eau. Évidemment, c'est le pain. C'est la faim qui connaît tout du pain. Quelqu'un qui a faim sait très bien ce que c'est un pain. C'est parfaitement mieux que celui qui en mange tous les jours. Eh bien, quelqu'un, en l'occurrence moi, mais de naître dans un endroit d'une dureté si nette, si clamée, si affirmée, tu travailleras toute ta vie, tu travailleras dans une usine, tu auras la fierté et l'humilité de ce travail et tu fabriqueras des choses très puissantes, beaucoup plus puissantes que ta pauvre vie interchangeable. Tu travailleras en termite. Et quand vous êtes dans un endroit où l'histoire est comme ça, je ne dis pas que c'est comme ça aujourd'hui, mais l'histoire est comme ça, elle s'est déposée. Elle s'est déposée comme de la cendre qui retombe. Elle a marqué même des gens qui n'ont pas connu cet état archaïque de l'usine, quand elle était dans sa grande force, quand elle alimentait en armes toute la Première Guerre mondiale. Quand vous êtes né dans un endroit comme ça, vous apprenez ce que c'est que la douceur.
Les jours de repassage dans la maison qui dort. La bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli. Mort. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons. Brûle d'impatience, le jour avant Noël, et sans aucune méfiance accepte tout pêle-mêle. La vie, la mort, les squares, et les trains électriques, les larmes dans les gares, ignorent, et les coups de trique, les becs d'acétylène. Aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donne Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. J'ai pas aimé ma mère, j'ai pas aimé mon sort, j'ai pas aimé la guerre, j'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. Tu vas seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière est-elle mon nom.
Mise en page, hommage à Christian Bobin qui vient de nous quitter, hommage à cet immense écrivain et cet immense poète. Bobin est un poète avant tout. Et il a une façon de regarder le monde et de nous faire entrer dans son monde avec beaucoup de douceur, beaucoup d'intelligence. Et on regarde le monde un peu différemment quand on a lu Bobin. Alors, en 1995, après les deux grands succès, hein, du Trébat et puis de la Petite Robe de Fête, il perd sa compagne, Ghislaine Marion, qui était son amie, son amour de jeunesse. Et il va lui dédier le livre La plus que vive, une œuvre qui va rencontrer encore une fois le public. Voici donc un extrait de La plus que vive, écrit en 1996. Et c'est une sorte de longue lettre à Ghislaine Marion. Si je ne disposais que deux mots pour te dire, je prendrais ces deux-là, déchirée et radieuse. Si je ne disposais plus que d'un seul, je garderai celui-là qui contient les deux autres, aimante. C'est un mot que tu portes à merveille, comme ces foulards de soie bleue autour de ton cou, ou ce rire dans tes yeux lorsque on venait de te blesser. Il y a chez toi, en toi, disséminé dans ta vie, dans tes gestes, tes silences, tes rires, une pensée ininterrompue, profonde, grave. Jusqu'au dernier jour, tu es en proie à une question dont tu cherches la réponse. Le samedi 12 août 1995, à 13h, tu es dans la salle de réanimation de l'Hôtel Dieu du Creusot. On va bientôt t'emmener par hélicoptère à Dijon. Il t'est laissé quelques heures de vie, et peut-être le mot de vie ne convient-il plus pour dire ces heures-là. Tu as un visage paisible, tes yeux fermés, comme au plus profond d'un songe, au bord de résoudre un très ancien problème. Je ne sais pas si tu as trouvé le fin fond de l'énigme. Je sais que, ta vie durant, tu n'as cessé de vouloir répondre à cette question, toutes les autres étant secondaires. Qu'est-ce que l'amour? C'est ta noblesse de ne t'être jamais satisfaite d'aucune réponse. Même lorsque tu formulais quelque chose à ce sujet, c'était de manière interrogative. Je viens de relire une carte que tu m'avais envoyée, représentant le baiser de Rodin. Au dos, tu m'écrivais ceci. Ce n'est pas moi, c'est toi qui soulignes les deux derniers mots. Je voudrais que toute la vie soit ce baiser sublime, le plus beau. Nature, enfant, promenade, et le plus dur, travail, vie sociale. Même les disputes entre les amants devraient être à l'image de ce baiser. Tout ne serait-il pas gagné si ce baiser embrassait la plénitude et le manque éternel?
J'arrive de chez les hommes, peu de choses ont changé. Les états, les royaumes, c'est à réinventer. Le bonheur est présent, il ressemble qu'à nous. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. À marcher chez les hommes qu'ai-je vu de la terre. 15 villes, 10 montagnes, tout le Gange en prière. À la ville et à toi, j'en demande pas beaucoup. Je veux juste une rose, un baiser et c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser et c'est tout. Thank you.
personne ne me prouve le contraire. Toute gloire et richesse sont des marches légères. La balance est égale quand on aime beaucoup. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Côté des hommes, je faisais marche arrière. Je passais sans regard sous tous les baptistères. Je tombais comme une étoile dans les pluies du mois d'août. Je veux juste une rose, un baiser, et c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. T'as aimé d'autres hommes et des hommes t'ont aimé. La naissance d'adulte, c'est de s'abandonner. Et s'il faut le demander à l'autre et à genoux, je veux juste une rose, un baiser et c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser. C'est tout.
Mise en page, hommage à Christian Bobin. Nous parcourons quelques-uns des grands récits de Bobin, de ses poèmes, de ses pensées, de ses livres qui sont à la lisière des recueils de poèmes et de ses philosophiques ou de romans, de portraits. Un auteur qui est proche du sacré, qui est proche de quelque chose d'assez mystique, alors vers la méditation peut-être, vers quelque chose aussi de très terrestre, et tout en étant suspendu comme ça entre ciel et terre, de très charnel aussi, avec bien évidemment un regard sur le monde tout à fait poétique. Alors parlons tiens de l'homme joie qui paraît en 2012, il y a 10 ans. Alors, il mélange des petits fragments écrits à la main, et puis des textes, des portraits comme je vous disais par exemple. Alors ainsi, cette petite phrase, écrite à la main dans le livre. « Ce qui me manquera dans l'éternité, ce sont les livres et les lettres. Le reste ne sera que délices, dès aujourd'hui sensibles. » Mon idéal de vie, c'est un livre. Et mon idéal de livre, c'est une eau glacée, comme celle qui sortait de la gueule du lion d'une fontaine, sur une route du Jura, un été. Je me trouvais dans un de ces bagnes joyeux qu'on appelle colonie de vacances. J'y étais abandonné depuis des siècles, incorporé à une petite troupe d'assassins chanteurs, mais semblables, quand au milieu d'une marche forcée sous le soleil apparut la fontaine crachant l'écume de sa lumière. Je me précipitais sous la gueule du lion, ouvrit la bouche et avalai un océan d'eau froide. L'eau fila dans mon corps jusqu'au cœur, où elle éteignit le feu de l'abandon qui le ravageait. Des dizaines d'années après, je me souviens du mystique réconfort donné par l'eau glacée, la gueule du lion. Je la cherche chaque fois que j'ouvre un livre.
Je crois être quelqu'un de poli, peut-être parfois un peu trop. Je crois on m'a bien élevé, et peut-être un tout petit peu trop bien. Donc il faut que je sais que j'ai à lutter. Je l'expérimente, je l'éprouve en écrivant. Je vais vous donner l'exemple très précis. Il faut que je lutte pour que vive cette sauvagerie, une indocilité qui permet d'aimer vraiment et d'être fraternel vraiment et non pas conventionnellement. Il faut sans arrêt que je lutte contre ma propre bêtise qui est puissante et qui n'attend que mon endormissement pour revenir à toute vitesse. Il faut que je lutte contre, même contre le fait d'être comme ça sur une scène. Il faut que je lutte. Il faut que je lutte pour trouver le sauvage et le vif. Et c'est mon propos en écriture. C'est très ambitieux ce que je veux faire, ce que j'essaye. C'est très, très, très ambitieux. Pas socialement, mais c'est que, par exemple, je rêve de phrases qui auraient pratiquement la magie d'une rivière ou d'une touche d'un rayon de lumière qui vous arrive tout d'un coup à travers un feuillage. Je rêve d'une phrase qui, n'étant que phrase, c'est-à-dire malgré tout abstraite, aurait une puissance concrète, charnelle, et pourrait bousculer comme ça et le corps et l'âme de celui qui serait devant le livre. Je rêve de choses comme ça. Et pour obtenir des choses comme ça, pour aller vers elles, il faut lutter sans arrêt, mais contre ce qu'on m'a appris, contre ce que je crois, contre l'habitude. Il faut que je lutte aussi. Il faut lutter aussi, évidemment, contre l'habitude d'écrire. Donc, la lutte, elle est premièrement tournée contre moi, vers moi. Elle est pour moi, contre moi.
Marin, mais se sentir saisi par ton regard chaud, ton regard chaud. Oh, oh, alors que l'on se voudrait fort et fier, fondre comme les glaçons au fond de nos verres, boire la nuit entière pour ne plus se taire, pour devenir un homme. Des déserts blancs, je pense à toi la moitié du temps, à ton regard clair, ton regard clair. Oh, 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 aveugle et plein de toi vers la lumière, quand le soleil incendie la mer, j'ai rêvé ton mystère. Je me sens comme un homme à la mer.
Jean-Michel Arnaud.
Mise en page.
Mise en page, aujourd'hui hommage à Christian Bobin. Christian Bobin qui disparaît la même année, quasiment à quelques jours près finalement, de son très grand ami Pierre Soulages. Ils s'étaient rencontrés il y a très longtemps, Soulages et Bobin. Il a souvent écrit au sujet de son œuvre, et d'ailleurs, dans l'interview que Bobin donnait à la Maison de la Poésie, interviewé par Keren El-Kaïm, Bobin évoque Pierre, ce livre, Pierre, virgule, ce livre qui paraît il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, puisque c'était en 2019, et il évoque Pierre Soulages, on va l'écouter. Et ensuite, un petit extrait de cette œuvre, Pierre, virgule, écrit par Bobin, en hommage à Pierre Soulages.
Pascal, dont je parlais tout à l'heure, rappelle souvent que quand on arrive à une vérité, il faut se rappeler de la vérité contraire. Il faut se rappeler toujours de la vérité contraire. Ainsi, on aura chance de ne pas trop devenir bête, de ne pas devenir inquisiteur, dogmatique ou stupide, ou mauvais. Toujours se souvenir de la vérité contraire. Et si je deviens sous de lumière, si je deviens ivre de lumière, si je ne sais plus quelle, alors je vais la perdre. Parce qu'elle n'existe que de côtoyer l'ombre, que de lutter avec elle, voire même que de se maquiller avec elle. Peut-être que la lumière et l'ombre ont une partie secrète à jouer et qu'il faut la laisser se jouer devant nos yeux. Plus grand, dit le Tao, plus grand l'envers, plus grand le revers, plus grande la face, plus grand le revers. Donc, j'essaye d'attraper les deux choses en même temps et de leur choc, peut-être une étincelle arrive. J'ai besoin de me souvenir de ce qui est mon contraire. J'ai besoin de... Vous comprenez, pour que la lumière ne monte pas, il faut que vous payiez votre tribut à l'ombre. Sinon, qu'est-ce que c'est cette lumière? Qu'est-ce que c'est une joie qui s'installerait dans un bunker spirituel? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien du tout. C'est que mensonge décoré, Saint-Sulpicien. Une joie doit se tenir à côté de la pluie trempée d'automne et d'hiver sur nos os. Une joie doit se tenir à côté de nos désolations. Et il faut mettre à l'épreuve ce qui est le plus pur, parce que sinon, comment saurons-nous que cette pureté est réelle? Il faut le mettre à l'épreuve de son contraire. Il faut ne pas oublier le contraire.
Ma première connaissance de Soulages est une connaissance absolue, celle de sa voix au téléphone. Je sais exactement où j'étais quand j'ai décroché. Le sol de la cuisine est fait de gros carreaux. Je sais sur quel carreau je me suis immobilisé en entendant cette voix, au centimètre près. Les voix sont ce trésor que les gens vous donnent, même les avares. Ce que la mort ne pourra capturer, ni une machine d'enregistrement. Car une voix, ce n'est pas que le souffle, les paroles, ni même les silences. Une voix, c'est le monde entier repeint par la personne. Comment, depuis le berceau, elle voit ce monde? Comment elle l'aménage ou le brûle? La voix de Pierre Soulages, c'est la grotte de Lascaux, avec de belles lueurs au fond de la gorge. Les gens du midi ont sur la langue la pointe d'un rayon de soleil. Ils s'en servent pour vous tuer. Malgré cette légère poussière d'un accent, la voix de Soulages est nue, incroyablement donnée. Un amusement la traverse, un étonnement que Soulages a de vous et de lui. Cet étonnement est la clé de voûte de son âme et de sa peinture aussi bien. N'en jamais revenir d'être au monde et de voir, de se voir dans ce qui vous fait face. Ces peintures ont la luisance humide d'une peau retournée. Elles ne montrent rien. Elles disent, ces stries noires sont des micro-sillons. La voix du peintre est prise dedans, il parle seul, sur une surface plus ou moins grande. seul.
Il pleut, il pleut sur les jardins à l'enquille, sur les roses de la nuit, il pleut des larmes de pluie, il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu que c'est joli, la pluie. Dès que Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid. Ici, oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, la ciel, la feuille, l'ombre qui se glisse jusqu'à moi.
Mise en page, aujourd'hui un hommage à Christian Bobin. Nous parcourons dans cette émission l'œuvre de Bobin à travers quelques fragments de ses œuvres, une soixantaine d'écrits de Bobin, il y a beaucoup beaucoup de choses. Alors des récits assez courts, pleins de poésie, de méditation, en voici un qui date de 2011, « Un assassin blanc comme neige », qui est publié chez Gallimard, il y a une dizaine d'années. Et qui est une réflexion, comme souvent une méditation, on retrouve des portraits, des moments de vie. À ce moment-là, au début des années 2000, la mère de Christian Bobin était en maison de retraite et il en parle dans ce livre-là. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses autour de la vie qui passe, de l'enfance qui passe. Bobin donc est né en 1951, il vient de décéder à l'âge de 71 ans. Alors, un petit extrait de ce livre-là, « Un assassin blanc comme neige ». Le rouge-gorge, trouvé mort devant la porte du garage, retient sous son duvet la chaleur des jours heureux. Dieu est un assassin blanc comme neige. « C'est comme ça, monsieur, c'est comme ça », me dit la petite chinoise conduisant le taxi. Ponctuant de cette parole, relevé chaque fois d'un rire cristallin, le récit des épreuves qu'elle avait traversées dans l'enfance. J'ai dans mon sac les essais de Montaigne. Montaigne est un citron que Pascal presse pour écrire ses pensées acides. Le rire en fleurs d'amandier de la petite chinoise égale en sagesse les deux penseurs. Dans une chambre à Strasbourg, je viens de vivre la mystique vie d'hôtel. On y apprend que, privés de nos auteurs familiers, nous ne sommes plus personne. C'est ce que nous clament les murs, les draps et l'indifférente courtoisie des hôteliers. Naufragés dans un lit à deux places, regardant au matin par la fenêtre le vieux biscuit rose de la cathédrale, j'ai goûté à la paix des fantômes, la gare de Strasbourg, de loin, avec le vert bombé qui l'enveloppe, ressemble à un bonbon à la liqueur. De près, elle est déchirante, comme toutes les gares du monde. Sur le quai de gare, il n'y a que des orphelins. La vieille dame arrive toujours la première dans la salle à manger de la maison de retraite. L'eau, versée bien trop tôt dans les brocs par le personnel pressé, est déjà tiède. Dans un coin de la salle, une fontaine d'eau fraîche. S'appuyant de sa main droite au mur, la vieille dame porte avec peine chaque pot jusqu'à la fontaine, le vide et le remplit. Puis elle va s'asseoir, essoufflée, après avoir doté chaque table d'une eau nouvelle. Les autres résidentes arrivent peu à peu. Les pots au centre des tables sont remplis de lumière. C'est ce qui est près de nous qui nous sauve, pas les grandes choses dont on rêve. C'est comme ça, monsieur. C'est comme ça.
On a parfois des petits regrets qui viennent vous pincer le cœur. Des vieux souvenirs, d'anciens projets, des tas de petits bonheurs et des serments d'espoir qui n'ont duré qu'un soir quand on disait déçu, j'aurais mieux fait si j'avais su. On se souvient d'un rendez-vous dans un ciné sous la pluie et d'un baiser, je vous l'avoue, refusé dans la nuit. Honte d'avoir pleuré, on prend un air moqueur. Mais il y a parfois des petits regrets qui viennent vous pincer le cœur. Ciné sous la pluie et d'un baiser, je vous l'avoue, refusé dans la nuit. Honteux d'avoir pleuré, on prend un air moqueur. Mais il y a parfois des petits regrets qui viennent vous pincer le cœur. Qui viennent vous pincer le cœur. Qui viennent vous pincer le cœur.
Mise en page aujourd'hui, un hommage à Christian Bobin qui vient de disparaître. Tout récemment, Christian Bobin venait de publier chez Gallimard Le Muguet Rouge. C'était en octobre dernier, c'était il y a un mois donc. Alors, une œuvre courte, hein, 76 pages, avec, pareil, des rêveries, des méditations aussi, une évocation des rêves. Je n'ai par exemple ce court passage. Mon père mort me montre deux brins de muguet rouge. Il me dit qu'un jeune homme là-bas, dans une montagne du Jura, a inventé ce muguet et envisage de le répandre sur le monde. Il m'invite à aller le voir. L'homme tient une auberge au bord d'un lac. J'y mange une omelette, bois un vin de paille. Quand je lui parle des fleurs, mon hôte me conduit au-dessus d'un pré en pente. Des dizaines de muguets rouges, fraîchement poussés, s'apprêtent à incendier la plaine. Je reviens vers mon père, lui demande qui est cet homme. Il me répond que c'est une partie de sa famille dont il ne m'avait encore jamais parlé. « Va les voir, me dit-il, apprends à les connaître. » Voilà un petit fragment de ce muguet rouge de Bobin. Et puis, voilà, moi je vous invite à aller parcourir cette œuvre-là, très riche. Je tombe là par hasard sur une phrase qui apparaît dans Un assassin blanc comme neige. Juste une phrase comme ça, sur une page. Je vois parfois des choses si belles que je me réjouis de ne pas les posséder. Ça, c'est magnifique. Hein. Donc, à lire aussi, toujours chez Poésie Gallimard, La présence pure, Christian Bobin, vous y trouverez des textes rares. voilà des textes qui sont beaucoup plus proches de la poésie, des haïkus, finalement, des pensées. Avec de très beaux textes, notamment le Christ au coquelicot, qui nous rappelle que il était très proche, évidemment, de la méditation, d'une certaine forme de religiosité. C'est pas un religieux Bobin, mais plutôt un mystique proche, justement, de ceux qui aiment un peu méditer. Il parle aussi de son père qui a eu Alzheimer dans La présence pure, justement. Et c'est très beau parce qu'il compare son père à un arbre. C'est la nuit que j'ai le plus envie de lui parler, quand l'éclat des lampes de la fenêtre du salon me le rend invisible. Je sais qu'il est là, veillant dans le noir. Et le savoir m'apaise. Comme à l'enfant perdu dans son sommeil, la voix des parents dans la chambre voisine. La couleur jaune monte à ses feuilles comme le rouge aux joues des timides. Les feuilles qui dansent, ivres, au bras du vent, n'échangeraient leur place pour rien au monde. Dépouillé d'une partie de son feuillage, il respire, encore, et même parfois il vole, porté par les anges, pour qui rien n'est sans mouvement secret. Mon père est depuis 3 mois entré dans une maison dont il ne ressortira pas, il a la maladie d'Alzheimer. Mon père et cet arbre me conduisent vers les mêmes pensées, de l'un naufragé dans son esprit, et de l'autre surpris par l'automne, j'attends et je reçois la même chose.
J'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée, majestueux. Dans ses racines, j'ai puisé la sève des grandes traversées, et mon pays, je l'ai trouvé. Dans tes yeux, sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. C'est la pause. J'ai fait grandir tout mon feuillage, j'y ai mis mes enfantillages, et nos enfants de tous les âges, merveilleux. J'ai fait durcir un peu l'écorce, pour nous donner le cœur, la force, de voir la vie et ses entorses. Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. C'est la pause. On a bâti notre cabane, nous petits dans tes bras de liane. À l'abri, tu berces mon âme. Avec eux, sous mon arbre, on se balance. Ensemble, on retrouve les jolies choses. Oui, sous mon arbre, on se balance. C'est grandiose. c'est grandiose. Sous mon arbre se balance, c'est grandiose.
C'est vrai que à partir de là, tous les visages sont passionnants. Tous les visages sont peut-être des déclinaisons du premier ou des correctifs apportés au premier ou parfois des contradictions apportées au premier. Mais toujours, 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 le premier visage est là. Tantôt rassurant, tantôt inquiétant, mais toujours, 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 il est là. Il est possible même, je m'en aperçois maintenant, en vous parlant, en travaillant à vous répondre, que le papier sur lequel j'écris, ce soit le visage de ma mère. Il est possible que ce soit sur cette réserve-là, sur cette matière-là, immatérielle, que j'écris depuis toujours et pour toujours.
Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir suivi cette émission mise en page dédiée à l'œuvre de Christian Bobin. Bobin qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Il était normal que mise en page lui rende hommage aujourd'hui. Un grand merci à vous bien sûr qui écoutez cette émission. Un grand merci également à Keren El-Kaïm pour la Maison de la Poésie. Pour le prêt que j'ai fait de cette interview qu'il avait réalisée donc à la Maison de la Poésie. Le 20 novembre 2019. Des chansons, il y en avait dans cette émission, avec Barbara, qui interprétait Pierre. C'était une version assez rare, puisque Barbara l'interprétait à la radio. Nous étions en 1964. Vous avez reconnu Charles Trenet deux fois dans cette émission. Une fois avec la chanson qu'il interprétait lui-même, Les Petits Regrets, et puis une version de La Folle Complainte, sa chanson si belle, qui dit des choses aussi intimes sur lui, qui dit aussi des choses sur ces petites choses qui nous tiennent tant à cœur, comme aimait le décrire Christian Bobin. Cette chanson, elle était chantée là, dans l'émission, par Maxime Le Forestier, une petite pépite rare et réussie, qui date des années 70. Également, Un homme à la mer, interprété par Étienne Dao. Chanson assez rare et peu connue d'Éric Chardenne, Une rose, un baiser et c'est tout. Et puis Cabrel, évidemment, Francis Cabrel, qui s'est inspiré de cette petite phrase de Bobin, lue tout à l'heure, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Continuons à lire Christian Bobin, cette œuvre est sublime, et on va se régaler encore et toujours à lire du Bobin. Les émissions, vous pouvez les réécouter, celle-là également sur le site de Radio Vassivière. Vous allez sur le site donc de Radio Vassivière, vous allez en haut de la page « Les émissions », vous trouvez « Mise en page », et ben voilà, comme ça toutes les émissions sont un podcast. Faites-vous plaisir si cela vous plaît. Merci à toi, Mandidou, d'avoir mis en page, et d'avoir mis en ligne surtout, mise en page. Et on se retrouve très vite et très bientôt pour une nouvelle émission. Plein de surprises à venir, je vous le garantis. À très bientôt. Salut à toutes, salut à tous.